Nous vous présentons, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre. Dôme. Mise en scène, production Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. et tu as fugué depuis, disons, quelque temps, même des années. Pourquoi ? David lui répond, « Parce que on m'avait mis chez des paysans, ils me battaient, ils passaient leur temps à boire, j'en ai eu marre et je suis parti. » Le commissaire lui dit, « Bien, nous verrons. » Le commissaire continue à leur poser des questions pour ce qu'ils ont fait, leur voyage et tout. Maxime et David essayent de raconter leur aventure. Le commissaire pense qu'ils ont dû imaginer beaucoup de choses. Puis le commissaire leur dit, « Bien, Maxime Lafarge, j'ai prévenu vos parents. Ils vont venir vous chercher, et quant à toi, David, tu iras retourner à l'assistance. » Maxime a peur de retrouver ses parents. Il ne veut pas perdre David. Il prend la main et la serre très fortement, très très fortement. On a frappé à la porte. Le commissaire dit, « Entrez !» C'est un agent qui dit, « Monsieur le commissaire, il y a les parents. » Le commissaire dit, « Faites-les entrer. » L'agent dit, « Bien, monsieur le commissaire. » Et l'agent fait entrer le père et la mère. Les parents regardent à peine Maxime. Ils semblent furieux. Le père dit au commissaire, « J'espère que monsieur le commissaire, qui n'a pas fait de bêtises. » Le commissaire lui répond, « Ça nous verrons plus tard. Il y aura une enquête. Vous prenez votre fils maintenant ?» Le père dit, « Oui. » Les parents s'approchent de Maxime. Le père dit à Maxime, « Lève-toi et viens avec nous. » Maxime, qui tient David, se lève avec David. Le policier fait lâcher la main de Maxime. Maxime pleure. Il embrasse son ami. Il crie. Je ne veux pas qu'on nous sépare. Non, je ne veux pas. David crie aussi. Non, non. Vous ne devez pas nous séparer. Nous ne voulons pas qu'on nous sépare. Mais l'agent éloigne David. Maxime crie, « Je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Jamais, jamais. N'oubliez pas ce que nous avons fait. » Maxime voit que son ami est emmené par deux flics. Il est désespéré. Il va à ses parents et demande, « Il faut prendre David avec nous. » Sa mère lui dit, « Plus tard, nous verrons. » Puis, ils sont sortis du commissariat. Maxime a l'impression, c'est d'être prisonnier. Ils ont pris un fiacre pour rentrer chez eux. Les parents ne parlent pas, ils semblent en colère. Maxime se moque de leur colère. Lui, ce qu'il veut, c'est retrouver David. Chez eux, il retrouve son frère au salon, qui n'est pas content de le voir parce que lorsqu'il était seul avec ses parents, il était mieux. Et puis, Maxime a connu des aventures. Une fois rentré chez eux, son père lui donne des coups de ceinture. Il a donné une bonne correction. Et Maxime s'en moque. Les douleurs physiques, il connaît. Puis son père lui demande, « Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? Mathilde ne sait pas pourquoi, ne sait quoi répondre. Il est parti. Il ne sait quoi dire à ses parents. Il leur dit, je vais partir en Amérique avec mon ami. Mais il a été pris et vendu comme esclave. La mère lui dit, tu n'étais pas heureux avec nous. Pourquoi voulais-tu partir? Maxime lui répond, pour vivre avec David. Elle lui dit, c'est pas bien bon. Tu ne nous aimes pas. Tu n'as même pas pensé à nous écrire. Oui, à nous envoyer une lettre. Il lui répond, envoyer une lettre d'Afrique en pleine brousse. Elle lui dit, va à ta chambre. Retrouve sa chambre, c'est celle qu'il a quittée, sa chambre, ça lui paraît bizarre, ça lui paraît étrange, elle a une drôle d'odeur, en plus, il lui semble étouffé. Tout d'un coup, il pense à David. Il regrette ce qu'ils ont fait. Il dit, je t'aime plus que tout au monde. Tu es mon frère. Il se met à pleurer. Puis, tout habillé, il s'allonge sur son lit. Mais le lit est trop doux. Alors, il s'allonge à terre, s'endort. Mais se réveille souvent parce qu'il a le corps gros. Pendant ce temps, au salon, la mère dit à son mari, il ne nous aime pas. Le lendemain, le père va voir son fils dans sa chambre. Il est couché à terre et lui demande « Pourquoi tu couches à terre ?» Maxime lui dit « J'ai pas l'habitude, ben, je n'ai plus l'habitude de dormir dans un lit. Là-bas, je couchais à terre. » Il se lève. Son père lui demande « Raconte-moi ce que tu as fait. » Maxime lui parle de tout et surtout que son ami David l'a aidé lorsqu'il était très malade. Son père, une fois qu'il a entendu tout ça, lui dit « Je suis très fier de toi. Moi aussi, j'aurais aimé faire ce que tu as fait. Tu t'en es bien sorti. Félicitations, tu es un homme maintenant. Mais ne parle pas de ce que je te dis à ta mère. Elle nous ferait une scène terrible. » Maxime lui demande Et David, son père lui dit, malheureusement, on ne peut rien faire. Il appartient à l'assistance publique. Plus tard, je sais que je pourrai compter sur toi. Tu es bien mon fils. Maxime est très triste. Il a perdu son ami David. Dit à son père, « Je veux David !» Le père lui dit, « Nous verrons plus tard
Pour le moment, il faut qu'il régularise sa situation. Tu comprends? Allez, je te laisse.
Et il laisse son fils. Sa mère lui bat froid. Il s'en moque, il en a l'habitude. Il lui a toujours battu froid avec lui. Pour les premiers jours, on le laisse tranquille. Il ne va pas à l'école et reste à la maison. Son frère ne lui parle pas. La nuit, il a des difficultés à dormir dans son lit. Il se découvre, mais ça ne va pas. Alors il couche sur le plancher. Il a souvent soif. L'odeur de la maison et la ville lui donnent la nausée. Lorsqu'il rêve la nuit, il rêve qu'il est en Afrique avec son ami David et qu'il marche, marche. Ils sont heureux. Ils sont ensemble. Il reste une semaine sans aller au lycée. La mère l'a mené vers le médecin de la famille pour qu'il voie s'il n'a pas attrapé une maladie. Mais non, il n'y a rien. Le médecin dit à la mère, « Il est très bien, votre fils. » Son frère est le même. Il est resté bête, méchant et un enfant. Lui a mûri, il a grandi, maigri, bruni. Ses cheveux blonds et ses yeux bleus ressortent plus. Ils sont plus lumineux. Il a des difficultés à vivre chez ses parents. Mais le cache. Il ne parle pas. Mère s'en plaint à son mari.
Il n'est pas content d'être de retour. Il ne nous aime pas.
Son mari lui dit, après ce qui lui est arrivé, c'est normal. Oui, c'est normal, il faut lui laisser le temps de se réhabituer.
Elle lui dit, justement, après tout ce qui lui est arrivé, il devrait être heureux de retrouver la maison.
Maxime, avec sa mère, va s'acheter des nouveaux vêtements. Il a grandi, maigri, rien ne lui va. Ses vêtements sont trop étriqués. Il est comme perdu dans la ville, au milieu de la foule, du bruit, de la circulation. Il étouffe dans les magasins. On lui achète des vêtements de ville, il se sent mal à l'aise dedans. Parce qu'il lui semble trop étriqué, étant donné qu'il a vécu pendant longtemps presque sans vêtements. On lui a acheté des chaussures, mais là il a des grosses difficultés à marcher. Il ne supporte plus les vêtements ni les chaussures. Bien sûr, il a passé des mois à marcher pieds nus. La mère lui dit, il est devenu un véritable sauvage. Il se dit que Robinson Crusoe a dû ressentir les mêmes choses lorsqu'il est revenu dans la civilisation. Que de choses à apprendre, tristesse des rues, ne pas cogner les gens. Il se dit qu'il est perdu en ville. Son père lui dit qu'il faut qu'il rouvre ses livres et se remette à l'étude. Il retourne surpris dans sa chambre, comme s'il était petit, ses cahiers, ses livres. Ça lui rappelle une vie qui n'est plus la sienne. Il a l'air de devenir un petit garçon. Maxime a des difficultés à se concentrer sur ce qu'il lit. Pour écrire, il fait des portées, des ractures.
il ne sait plus tenir ce porte-flux, plume. Lorsqu'il lit ou écrit, des images lui viennent et il pense à ce qu'ils ont fait ensemble. Non, il ne sera plus jamais comme avant. Et pourtant, il le faut pour son père, pour que son père lui fasse confiance. Son oncle vient les voir et dit
« Je suis venu voir le petit aventurier. »
Lorsqu'il voit Maxime au salon, il ne le reconnaît plus.
« C'est toi, Maxime ?»
Maxime lui dit « Oui. »
Il lui dit « Je te reconnais plus. » Qu'est-ce que tu as fait ?
Maxime lui répond en quelques phrases ce qu'il a fait. Son oncle lui dit
« Voilà ce que c'est que de fréquenter les petits vauriens. Tu ne le reverras plus, j'espère. »
La mère dit « Sûrement pas. »
Maxime se met à crier « Vous m'avez dit que nous nous reverrions. »
Elle lui dit « Jamais. » Il est furieux et pleure la perte de son ami. Oui. Il porte la plainte de son ami.
Puis, on lui dit avant qu'il aille dans sa chambre, sa mère lui dit « Demain, tu retournes au lycée. »
Maxime a peur de retourner au lycée parce que c'est pour lui son ancienne vie.
Il passe une nuit d'angoisse.
Puis, le lendemain matin, après son petit déjeuner, sa mère le mène au lycée. C'est le directeur du lycée, un prêtre, qui les reçoit. Il les reçoit dans son bureau. Il dit à Maxime,
« J'espère, c'est que vous êtes heureux de retrouver la civilisation. Vous avez vécu au milieu d'un peuple barbare et que la France et les prêtres vont civiliser. Puisque vous avez fait est une chose très grave, mérite une punition. Vous serez puni de récréation. Vous devrez rattraper votre retard aussi. Le jeudi, donc, vous serez en retenue. Et vous devrez vous confesser tous les mercredis. Nous sommes bien d'accord.
Puis, il l'a mené à sa classe. Le directeur dit aux élèves
« Voilà un de vos camarades qui a vu les barbares. Ça lui a donné une bonne leçon. Il est heureux d'être parmi nous. »
De nappe et la profonde houle et l'océan du blé et la mouvante écume et nos greniers comblés.
Et la vie de lycée reprend.
Et voici votre voix sur cette lourde plaine et nos amis absents et nos cœurs dépeuplés.
Il a de grosses difficultés à mener cette vie. Des heures et des heures assis sans bouger dans une pièce poussiéreuse, remplie de monde. Et puis il y a aussi des difficultés, c'est pour se concentrer sur les leçons. Il est très surveillé et un domestique le mène et le ramène à l'école et chez lui. Les élèves, intrigués, lui posent des questions.
Non, monsieur, et je m'appelle Bonnet.
Il est devenu le héros de l'école. Privé de récréation, ça ne le gêne pas, parce que le bruit des élèves le fatigue.
Vous allez commenter les deux premières strophes du poème. Vous avez une demi-heure.
Durant l'étude, il bouge tout le temps, sur son siège, à grosses difficultés à suivre. Mais il est bien obligé de s'instruire, parce qu'on lui pose tout le temps des questions. À la maison, on le surveille pour voir s'il fait bien ses devoirs. Ses notes sont moyennes. Mais le plus dur pour lui...
En vérité,
c'est
en vérité,
parce qu'il se trouve seul.
Si vous ne mangez
il
la pense chair du fils de l'homme,
constamment son ami.
Son sang, vous n'aurez pas de vie.
Ses parents
qui mangent
lui font connaître des enfants, bien sous tout rapport.
Aidez-moi, vite.
Qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson.
Il lui pose des questions sur ce qu'il a fait.
Quelle boîte ?
Oui. Ses parents lui font connaître des enfants bien sous tout rapport, qui lui posent des questions sur ce qu'il a fait. Il s'ennuie avec eux, pense qu'ils sont encore des enfants qui ne pensent qu'à jouer. Maxime n'en peut plus, ne parle plus. On dit qu'il est fier parce qu'il aime s'isoler. Tous les dimanches, sa mère l'amène à la messe pour qu'il se civilise. Et puis aussi, il a vécu chez les infidèles. Extérieurement, il redevient ce qu'il était. Il est plus calme. À l'intérieur, c'est autre chose. Il pense constamment ce qu'il a fait avec David. Il se trouve malheureux. Toutes ces contraintes sociales, morales, c'est très pénible et artificiel. Ses notes sont de mieux en mieux. La mère est allée voir le directeur de l'école. Le directeur lui dit, tout est rentré dans l'ordre. Il va oublier cet équipé qu'il a fait. Et puis, il ne voit plus son compagnon. Il faut surveiller les amitiés de vos enfants, qui n'est des amitiés que de son milieu, que de leur milieu. Vous avez vu ce que cela fait. Il ne voit plus son ami, ne lui posez plus des questions sur ce qu'il a fait pour qu'il oublie tout. La jeunesse oublie vite. Le directeur se met le doigt dans l'œil. Comment peut-il oublier ce qu'il a fait? Alors que ses copains l'appellent l'explorateur et qui lui pose constamment des questions de ce qu'il a fait. Et lui compare ce qu'il a vécu et la vie qu'il vit maintenant. Mais lui a appris qu'il fallait cacher ce que l'on pense et faire semblant d'être entré dans le moule. La civilisation, c'est pour ruser, toujours ruser et cacher ce que l'on aime. D'ailleurs, tout le monde est pareil. Le mari cache à sa femme qu'il a une maîtresse. L'enfant cache à ses parents qu'il aime jouer. Les hommes d'affaires rusent pour faire des affaires, etc., etc. Son petit frère est devenu plus grand et toujours aussi désagréable. Il traite son frère de sauvage. Il se dispute constamment avec son frère. Le petit frère lui dit, « C'est maman qui dit que tu es un sauvage. » Maxime lui dit, « Je suis heureux d'être un sauvage. » Sa mère l'amène tous les dimanches à la messe. Elle lui dit, il faut que tu reviennes un civilisé. Elle le dit au curé qui est un petit homme tout maigre à cheveux blancs. Il a été chez les sauvages. Il a dû oublier le bon Dieu. Les amis de sa mère viennent voir le jeune héros qui a été seul chez les cannibales. Lorsque sa mère organise des thés avec ses amis, elle le fait venir, Maxime, pour qu'il puisse parler à ces dames qui tiennent beaucoup à le voir. Maxime leur parle de mauvaise grâce. Elle pose des questions entre deux gorgées de thé. Certaines aimeraient l'embrasser, le toucher. Et d'autres le font. Ça dégoûte Maxime. Une fois que ses amis sont partis, sa mère lui dit « Tu t'es mal tenu devant mes amis » et lui répond « Et elle ?» Maxime a pris de l'assurance vis-à-vis de sa mère. Elle le dit à son mari. Il est devenu indiscipliné, impoli. Son mari lui dit, c'est pas grave, il a de très bonnes notes. Ses camarades d'école se moquent de lui parce qu'il a vu une montagne enneigée en Afrique. On lui dit que c'est impossible, qu'il a dû rêver. Au lieu d'aller en Afrique, il est allé dans les Alpes. Ça ne m'étonnerait pas. Lui hausse ses épaules et ne leur répond pas. Mais il cherche dans les livres de géographie pour voir, mais ne voit rien. Rêve de retourner là-bas avec David. Pense souvent à lui, se demande ce qu'il est devenu. Il se dit, pauvre David, prisonnier dans un orphelinat, comme s'il était coupable, coupable de ne pas avoir des parents. Il va souvent au jardin des plantes du parc de la Tête d'Or. Il voit des enfants jouer au cerf-volant. Il voit une belle jeune fille, cheveux longs tombants, yeux bleus. Elle a une robe beige, elle est très belle. Il s'approche d'elle pour lui parler. Il lui dit bonjour. Elle lui dit bonjour monsieur. Il lui dit je m'appelle Maxime. Elle lui dit moi c'est Amélie. Je peux jouer avec vous? Elle lui répond non, parce que maman voudra pas, parce que je ne vous connais pas. Il voit que la jeune fille est pleine de savoir-vivre, etc. Alors se retire. Il se dit qu'il ne retrouvera que des gens comme ça, désormais. Il va souvent au musée Guimet. Là, il passe des heures lorsqu'il a le temps, lorsque les cours sont finis avant l'heure et que maintenant il n'a plus à s'occuper de son frère et qu'on le laisse rentrer seul. Il va retrouver les lieux où ils ont passé des journées agréables avec David. Il voit même passer la sorcière. sa mère reçoit son beau-frère au salon. Elle lui dit « Tu passes ton temps à courir les filles. » Il lui demande « Qu'est-ce que ça peut te faire? Et puis, c'est ta faute. » Elle lui demande « Quoi ?» Il lui répond « Tu sais très bien. » Elle rougit. Elle lui dit « T'es insupportable. Tu ruines la famille. Tu ne fais rien. » Lui dit en riant « Mon frère travaille pour deux. » Il veut lui baiser la main. Elle la retire. Elle lui dit « Tu es insupportable. » Le père rentre tard, le soir. Il est très fatigué. Il dit en entrant au salon « Vivement que mes fils prennent ma place. » Mais malheureusement, c'est pas demain la veille. Un jour, le père reçoit dans son bureau, à la banque, une jeune femme charmante. Il la trouve très belle. Elle est veuve et vient le voir pour ses placements. Elle est grande, mince, cheveux blonds tombants, porte une robe marine. Henri la trouve délicieuse. Elle lui dit « Je n'y connais rien des affaires de mon mari. Il a mis tout son argent dans une compagnie qui fait des recherches chimiques dans le pétrole, je crois. » Henri lui dit « Il a peut-être bien fait, c'est sans doute l'avenir. Le pétrole, l'électricité. » Elle demande « Le pétrole, pourquoi faire le pétrole ?» Il lui répond « On parle beaucoup de moteurs à pétrole, que c'est plus pratique que le charbon. Laissez votre argent là-dedans. » Elle lui dit « Je vous remercie, monsieur. » Il lui dit « Ce n'est rien, madame. » Elle lui dit « Je suis désorientée depuis la mort de mon mari. » « Vous comprenez ?» Il lui dit « Je serai là pour vous aider, madame. » Elle lui sourit gentiment. Elle aussi le trouve charmant. Il se lance et lui demande « Il est l'heure de déjeuner. Si vous voulez, je vous invite au restaurant. » Elle lui sourit gênée et lui dit « Je sais si je peux. » Il lui dit « Ce n'est qu'une invitation pour le déjeuner. » Si vous n'acceptez pas, je serai obligé, c'est de déjeuner seul. » Elle réfléchit et lui dit « Bien, j'accepte, parce que ce n'est que pour déjeuner. » Ils sont allés au restaurant. Elle le trouve gentil, protecteur. Lui la trouve très belle. Ça le change de sa femme. Tout en mangeant, elle parle de sa vie monotone et triste. Elle lui dit qu'elle vit seule dans un appartement rue Victor Hugo. Que la vie d'une femme seule n'est pas facile, qu'une femme seule ne peut pas sortir comme elle veut. Lui parle de son travail, de ses ennuis avec sa famille. Elle le trouve charmant. Il décide de se revoir. Il invite à des concerts, au restaurant, au cinéma. Le cinéma, c'est pour s'amuser, c'est une distraction, ce n'est rien de sérieux. Et puis un soir, en sortant du concert, il fait doux. Elle s'est laissée caresser la main. Cela lui manque tellement de ne pas avoir un homme près d'elle. Il la raccompagne jusqu'à chez elle. Et une fois arrivés devant la porte de son allée, ils ont des difficultés à se séparer.
Alors, lorsqu'elle ouvre la porte de son appart, de son allée, il est rentré avec elle. Ils ne se parlent pas. Elle le conduit chez elle. Entrez.
Une heure plus tard, ils sont à Mont. Cela s'est passé tout simplement. Ils se voient souvent, mais discrètement. Elle lui fait payer ses factures, il ne peut refuser. Elle est si douce. Elle trouve très bien. Mais du point de vue santé, il ne la trouve pas en forme. Il lui demande, qu'est-ce que tu as ? Elle lui répond, un peu fatiguée, c'est tout. Il lui dit, va voir un médecin. Elle va voir son médecin qui lui dit qu'elle est anémique. Elle le dit à Henri qui lui dit, je paierai l'hôtel pour Annecy, ça te fera du bien. Puis les vacances sont là, nous irons tous à Annecy. Maxime a eu de très bonnes notes, son père est satisfait. Annecy, dès qu'il peut, le père va retrouver sa maîtresse à l'hôtel. Maxime fait de longues promenades seul. Il aime la montagne. Il ne veut pas faire la connaissance des jeunes filles que sa mère veut lui présenter à l'hôtel. Elle lui dit, « Tu es un vrai sauvage !» Elle dit à ses amis, ne faites pas attention à lui, c'est un sauvage, il a vécu chez les sauvages. Les filles intriguées veulent le voir et lui parler. Un garçon qui ne cherche pas les filles et qui paraît plus mûr que son âge et a vécu une aventure comme dans les livres. Ça les excite et veulent le connaître, mais lui les fuit. Ça les excite encore plus. Ferdinand, le petit frère, est jaloux. Il n'a aucun succès. Elle le trouve bête. Maxime fait de longues marches en montagne. Il rêve. C'est d'aller voir les cimes enneigées. Mais c'est un peu loin. Il fait aussi un peu de barque sur le lac. Un jour, il demande à son père d'aller voir les cimes enneigées. Son père, pour lui faire plaisir, veut bien. Alors, un matin, ils partent très tôt dans un train qui va jusqu'au pied du Mont Blanc. Maxime dit à son père, « J'ai vu en Afrique des montagnes comme celle-là. » Son père lui dit, « Peut-être si haute, mais sans neige. En Afrique, la neige fond. » Maxime lui dit, « J'y retournerai jusqu'au pied de la montagne. Au pied de la montagne, les forêts ont des cascades. Les gens sont gentils. Mon père lui demande, « Tu es sûr ? Tu es vraiment sûr d'avoir été en Afrique ?» Vassil lui dit, « Demande-le aux militaires qui m'ont récupéré. » Le voyage a enthousiasmé Maxime et remercie son père. Les vacances continuent. Un jour, Henri revoit sa maîtresse dans sa chambre, Jeanne Mauvin. Elle lui dit, « Je suis enceinte. » Il demande, « Tu en es sûr ?» Elle lui dit, « Je ne me sentais pas bien, alors je suis allée voir le médecin. » « C'est une catastrophe. » Il lui dit, « Qu'allons-nous faire ?» Elle lui dit, « Je ne sais pas. » Il est furieux. « Oui, c'est une catastrophe. Mais que faire ? Et puis, on n'est pas en ville. » Les vacances continuent. Maxime, dans le hall de l'hôtel, une femme l'accoste. Elle est grande, mince, cheveux châtains, visage agréable, porte une robe blanche. On ne peut pas définir son âge, mais elle peut paraître plus jeune que son âge. Elle lui dit, « Monsieur, c'est vous qui êtes parti en Afrique ?» Maxime gêné lui dit, « Oui, madame, je n'aime pas que l'on me pose des questions sur l'Afrique. » J'ai peur qu'on me prenne pour un singe savant. Elle lui demande, « C'était bien là-bas ?» Il lui dit discrètement, « Oui, madame, très bien. » Elle lui dit, « Moi aussi, je rêve de partir là-bas. » Elle lui sourit. Il la trouve charmante. Elle lui dit encore, « Si vous voulez me parler de l'Afrique, nous pourrions nous asseoir dans un endroit tranquille. » Il lui répond, « Ma foi, je veux bien, madame. » Elle le mène sur la terrasse de l'hôtel. S'assoient l'un à côté de l'autre sur des chaises en osier. Et durant 10 heures, elle lui pose des questions sur l'Afrique, il répond gentiment. Ils se voient souvent. Elle se met à aimer Maxime. Lui la trouve très belle et femme. Un jour, un après-midi, elle le mène à sa chambre. Une fois dans sa chambre, elle lui demande, avez-vous été avec une femme ? Il est tout rouge, elle lui dit. C'est normal. Et puis, vous avez connu des tas d'aventures. Alors, pourquoi ne pas connaître celle-là? Vous savez, connaître une femme, c'est aussi fascinant qu'une aventure. C'est une fascinante aventure. Je dis la connaître en entier, corps et âme. Alors, voulez-vous? Il est tout rouge. Elle lui dit, n'ayez pas peur. Je vous guiderai. Je vous déguiderai. Elle s'est approchée de lui. Elle lui défait sa cravate. Et elle l'initie. Ils deviennent amants. Cela l'a surpris, mais il a aimé. Ils se voient souvent en cachette dans la chambre de la femme. Maxime est moins intimidée et sait ce qu'il faut faire. Elle est heureuse avec lui, mais très triste. Elle voit qu'il n'est qu'un gosse. Je demande ce qu'elle fait avec lui. Lui se comporte comme un gosse. À chaque fois qu'il se rhabille, elle lui refait sa cravate, lui explique comment se tenir dans le monde. Malheureusement, il vient la voir à tout moment, sans se soucier des autres. Malgré qu'elle l'aime, elle décide de le quitter. Ça lui fait mal, mais il le faut. Il est trop jeune. Dès qu'il se voit, elle lui dit « Faut que je m'en aille. C'est pour ton bien. » Il est triste et lui demande « Je pourrais te revoir ?» Elle lui dit « Non, garde-moi comme un souvenir de vacances. » Il est furieux. Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Dom. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.